Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Salut à tous les cinq.
Bonsoir Elisabeth.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
Le médecin préféré des Français, Michel Cymes, qui révèle avoir été atteint d'un cancer en 2008.
Rien n'est impossible, mon histoire pourrait être la vôtre. Si Michel Cymes se raconte, c'est parce qu'il veut être utile aux Français. Il sera dans un instant sur notre plateau pour nous parler de cet ouvrage dans lequel il se raconte comme rarement il s'est raconté. Patrick, notre invité ce soir.
Julien Bayou, l'ex numéro 1 des Verts, reprend la parole dans C'est à vous en direct, 2 semaines après sa mise en cause par Sandrine Rousseau, ici même. Affaire Bayou ou affaire Rousseau?
C'est la question qu'on lui posera. Il sera dans quelques instants sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir.
Lundi prochain, le procès du crash du Rio Paris s'ouvre. À Paris, on a rencontré aujourd'hui la sœur d'une des victimes. Elle en veut à Airbus et Air France. Elle témoigne ce soir.
Mathieu dans le 5 sur 5.
Imaginez, il est 7h30 du matin, vous entendez une sirène qui vous dit qu'un missile nord-coréen arrive. C'est ce qu'ont vécu les Japonais ce matin avec de vraies sirènes d'alarme. Un missile qui est passé au-dessus de l'archipel pour se jeter dans le Pacifique. On vous le raconte dans le 5 sur 5.
Pierre, votre œil.
Le guitariste Jimi Hendrix aurait eu 80 ans le mois prochain. Et il est parti à 27 ans, comme d'autres musiciens célèbres, on le sait. Et une BD riche et illustrée de nombreuses photos exclusives raconte sa vie. On va parcourir le livre ensemble tout à l'heure.
Nos invités du dîner, le réalisateur Cédric Jiménez, qui signe l'un des films les plus attendus de cette rentrée, novembre, le récit de l'intérieur en immersion des 5 jours de traque. Fébrile, fiévreuse pour retrouver les auteurs du commando des attentats du 13 novembre. Il sera sur notre plateau accompagné de deux des actrices de ce film très collégial, Coral, Anaïs Demoustier et Lina Coudry. Et puis on reçoit également Claude Lelouch qui fêtera en grande pompe ses 85 ans sur la scène du Palais des Congrès pour un spectacle unique, le spectacle symphonique d'un film à l'autre. Voilà nos invités du dîner, un dîner préparé ce soir par le meilleur ami de Barbara Pravi, Jules Béard, qui est en cuisine aux côtés de Bertrand. Salut à tous les deux.
Salut Babette, bonsoir à tous. À la base, pour le dîner sur les conseils de la députée Obono, on pensait manger nos morts. Puis après réflexion, Jules m'a dit que ça serait peut-être mieux de partir ce soir sur un carpaccio de dorade. C'est bien ça, Jules?
C'est ça, c'est mieux. Carpaccio de dorade, crème de poivron, soujouk, oignon pickles, plein de petites choses. Voilà.
Ça va être très bon. Merci encore, chef. Bonne émission.
Avec plaisir.
Merci beaucoup à tous les deux. À tout à l'heure. Il y a 15 jours, la députée écologiste Sandrine Rousseau était notre invitée. Sa réponse à une question posée en toute fin d'émission va provoquer un séisme à Europe Écologie Les Verts et conduire son secrétaire général Julien Bayou à démissionner de ses fonctions et à quitter la présidence de son groupe à l'Assemblée nationale. Avant de recevoir Julien Bayou, retour sur le plateau le 19 septembre dernier à 19h50. Je relaie une question qui est posée sur les réseaux sociaux par nous toutes sur Twitter. Bonjour Europe Écologie Les Verts que vous représentez ce soir. La cellule VSS, violence sexiste et sexuelle, a été saisie en juillet après des accusations de violence commises par Julien Bayou sur son ex-compagne. Comment s'assurer que les militantes soient en sécurité? Aucune mesure ne semble avoir été prise. Pourquoi? Il nous reste une trentaine d'émissions. Pardon, je relais ce message qui est arrivé là pendant
déjà dire que j'ai reçu très longuement et je me suis entretenue vraiment très longuement. Je l'ai reçu chez moi, l'ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui, en effet, sont de nature à briser la santé morale des femmes. Manifestement, elles sont, enfin, elles sont plusieurs. Moi, je n'ai entendu qu'un seul témoignage. Je pense qu'il y a une enquête qui est en cours et
une enquête judiciaire, vous l'avez...
Une enquête journalistique, qui semble être en cours. Moi, ce que je veux juste dire, c'est qu'au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état vraiment très, très déprimé, voire enfin, vraiment très mal, quoi. Mmh. Très très mal. D'ailleurs, elle a fait une tentative de suicide quelques semaines après, tellement elle allait mal. Et donc, oui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des questions qui vont venir sur la table. Mmh. Et donc...
Éventuellement, voilà, Julien Bayou qui devra renoncer peut-être à ses fonctions au sein de votre parti.
Mais on verra, step by step.
Bonsoir Julien Bayou, député de Paris, merci de votre présence. Ce soir, vous vous exprimez pour la première fois à la télévision depuis cette intervention de Sandrine Rousseau, ici même, il y a deux semaines sur ce plateau. Quelle a été d'abord votre première réaction lorsque vous avez pris connaissance de ces propos ?
Déjà, je dois vous remercier pour l'invitation et vous dire, je viens ici en fait à reculons.
Contraint et forcé par qui ? Par le...
Je viens ici, moi, j'espère, entre guillemets, boucler la boucle. Cette séquence, je pense, est grave, en fait. Au-delà de mon cas personnel, je crois que c'est vraiment irresponsable de dévoiler l'état psychologique de quelqu'un à une heure de grande écoute, de lancer des accusations sans étayer. Enfin, je pense vraiment que c'est allé trop loin. Et moi, je suis dans une situation... C'est Kafka, voilà. On m'accuse de faits qui ne sont pas répréhensibles.
Pas pénalement répréhensibles. Ce que nous a confié Sandrine Rousseau quelques secondes après qu'on ait rendu l'antenne.
Quand les lumières se sont éteintes, oui.
Parce que faute de temps, on n'a pas pu lui poser les questions.
Et je vous remercie de l'avoir, M. Cohen, précisé ultérieurement. Des accusations pour lesquelles je suis immédiatement jugé coupable. Pour autant, on ne me les présente pas. Je ne peux pas m'en défendre. J'ai été mis en cause par mon ex-compagne début juillet. J'ai demandé 4 fois
à être auditionné par cette cellule,
interne d'Europe Écologie Les Verts.
Au parti.
Je suis innocent de faits dont je ne peux me défendre, qui ne me sont pas présentés.
Que saviez-vous de l'état d'esprit ou de la santé mentale de votre ex-compagne ? Vous saviez qu'elle avait fait une tentative de suicide et qu'elle s'en était confiée à Sandrine Rousseau ?
Non, mais moi, je ne peux pas... Mais je ne veux pas parler de ma vie privée ou sa vie privée. Puisque Sandrine Rousseau a révélé l'état de mon ex-compagne, je ne vais pas le nier.
Qu'est-il avoir fait avec l'accord de votre ex-compagne ?
Est-ce bien responsable ? Et donc, effectivement, il y a eu une tentative de suicide. J'ai moi-même participé à alerter les pompiers. Heureusement, elle a été prise en charge rapidement. C'est arrivé presque un an après notre séparation. Et effectivement, quelques semaines... après cette rencontre avec Sandrine Rousseau.
Hier soir, votre ancienne compagne a officiellement saisi la cellule interne d'Europe Écologie Les Verts contre les violences faites aux femmes. Via un communiqué de son avocate, elle a tenu à préciser que ses idées suicidaires et son passage à l'acte ne sont en aucun cas liées à l'action de militantes féministes, mais à des comportements qui seraient toxiques, contraires aux valeurs du féminisme censé être au cœur des valeurs d'Europe Écologie Les Verts. Avez-vous eu des comportements toxiques avec votre ex-compagne, peut-être même involontairement ?
Non, mais on va être clair. Moi, je demande à être auditionné. Je demande à être auditionné. Je l'ai demandé 4 fois. Ça m'a été refusé 4 fois. Dans un premier signalement ou un email, il y avait comportement manipulateur. Je ne sais pas ce que c'est. Et si on peut faire un tout petit point, enfin, des violences psychiques, c'est grave. Et contrairement à ce que j'ai entendu, ce n'est pas une accusation facile qu'on ne peut pas contredire. C'est grave. Ça fait aussi mal que des violences physiques. Et ça repose sur des faits assez identifiés. C'est des moqueries, c'est du dénigrement, c'est un chantage au suicide, c'est limiter les relations amicales, en serrer pour éviter un épanouissement professionnel, c'est des menaces, c'est des intimidations. Il n'y a rien de tout ça, jamais. Ça, je peux m'en défendre. Des accusations à l'emporte-pièce, je ne peux pas m'en défendre. Et on est au cœur du sujet. Je suis accusé de faits qui ne me sont pas présentés et dont je ne peux me défendre.
Vous avez demandé à être entendu par cette cellule, mais lui faites-vous encore confiance
à cette cellule ? La question du cadre est posée, parce que déjà, les cellules en soi ont des limites.
C'est à la justice de gérer ces questions-là ?
Alors, en fait, nous, on a créé, si je reprends, je peux peut-être parler de mon cas personnel après, mais... dans ces mouvements de gauche et écologistes qui ont assumé leur honte, qui ont reconnu qu'il y avait un problème dans toutes les organisations politiques ou dans les médias. Il y a des faits de violence, de harcèlement, d'agression. Les femmes ne sont pas en sécurité comme elles ne sont pas en sécurité comme elles devraient l'être dans le pays. Il n'y a que 0,6% des faits de viol rapportés par des majeurs qui sont effectivement sanctionnés. Il y a 10% des enfants devenus adultes dans ce pays qui disent avoir été victimes d'inceste. Donc il y a un tabou, un fait qui n'est pas affronté, une honte qui n'est pas affrontée, que l'Espagne a affronté, mais que la France n'a pas affronté. Donc, pour nos organisations, l'enjeu, c'était sortir du déni. Oui, il y a des faits de violence dans toute organisation, et peut-être peut-on se doter d'outils de régulation. Ça, c'est affronter le déni. Mais la justice et la réparation, ça n'est pas possible, ce n'est pas notre rôle. Une plaignante qui est effectivement victime, si elle est harcelée par un adhérent, nous, tout au plus, on va pouvoir retirer la qualité d'adhérent. Ça ne la met pas vraiment en sécurité, vous voyez. C'est de la régulation, ce n'est pas justice, protection ou sanction ou réparation. Donc, c'est certain, enfin, il y a des limites, évidemment. L'enjeu, c'est réparer la justice. La justice est dysfonctionnelle. Les plaintes sont difficiles à poser, les délais de traitement sont terribles. Il y a une sorte d'impunité des agresseurs, des violeurs, c'est un fait. Par rapport, la comparaison avec les autres pays européens est édifiante. Et sur mon cas à moi, comment voulez-vous que des membres bénévoles d'une cellule, qui sont d'ailleurs font un travail utile, admirable, sous pression, puissent juger le dirigeant? C'est... Si je suis blanchi, on leur dira qu'ils ont été trop conciliants. Et s'ils me chargent, ou sanctionnent, ou suspendent, ou je ne sais quoi, on dira que c'est un règlement de compte pré-congrès. Vous voyez, donc il y a...
On comprend bien toutes les limites de ces cellules qui...
Mais pour autant, dans d'autres mouvements où il n'y a pas de cellule aussi imparfaite soit-elle, donc il n'y a pas de signalement, et donc on pourrait dire qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas vrai, vous voyez. Donc l'enjeu, c'est la justice. Voilà. Et tout à l'heure, cet après-midi, la Première ministre a répondu sur la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron dans son premier quinquennat, et c'est désespérant de voir que la réponse n'est pas là. Voilà.
Une enquête du journal Libération a révélé que pendant 3 ans, vous avez été mis sous surveillance par des militantes féministes de votre parti. Y avait-il de votre part des comportements à l'égard des femmes qui pouvaient justifier cette mise sous surveillance?
Mais non, mais enfin, on ne peut pas être mis comme ça, surveillé.
Vous le saviez?
Bien sûr.
Vous le saviez?
J'avais même confronté la personne, une des personnes, puisqu'elles sont plusieurs, dont une personne d'ailleurs qui fait partie de la cellule, ce qui pose un autre problème. En fait, elle contactait mes ex avec le prétexte de les protéger. De quoi? Et en fait, à un moment, ça m'est revenu aux oreilles, puisqu'une ex m'avait dit, écoute, je pensais que c'était pour être utile à la cause, ou je ne sais quoi. Et en fait, c'était pour te nuire. Et donc, moi, au bout d'un moment... je suis allé voir cette personne, puis lui demander, combien te faut-il d'ex à contacter qui te disent ça s'est pas bien fini, ou il n'a pas forcément été ceci ou cela, mais il n'y a rien, ni de violence morale, ni d'agression, ni de harcèlement, ni d'un mot plus haut que l'autre. À quel moment tu t'arrêtes, en fait? Et surtout, à quel moment tu arrêtes de colporter des rumeurs sur moi? Parce qu'en fait, cette personne était... ces personnes étaient en train de dire, je sais qu'il y a quelque chose, et même si je tombe sur une, deux, trois qui me disent non, je continue.
Sans vous, c'est sans fin. Intervenir, porter plainte pour diffamation, faire cesser cette surveillance qui vous paraissait injustifiée?
Moi, j'ai choisi de ne pas... c'est un choix privé, de ne pas faire de main courante, y compris parce que j'en avais discuté avec mon ex-compagne et qu'elle m'en avait dissuadé.
Pour qu'on comprenne bien, si vous êtes là aussi ce soir, Julien Bayou, et s'il y a une histoire Bayou...
Il n'y a pas d'affaire Bayou.
Oui, j'y viens. Ouais. Mais si votre cas personnel a autant de retentissement, c'est aussi parce que vous avez démissionné. Vous êtes mis en retrait de vos fonctions dirigeantes du parti. Je n'ai pas cru entendre que la mise en cause de Sandrine Rousseau ait été relayée en masse dans le parti pour appeler à votre démission, à votre départ ou à votre retrait. S'il n'y a pas d'accusation, comme vous l'avez dit, pourquoi un homme qui n'est accusé de rien démissionne-t-il ?
Vous venez de résumer la situation intenable dans laquelle j'étais. Pas accusé, déclaré coupable. Situation intenable. Moi, je parlais au nom du collectif. Depuis 9 ans, je dirigeais ce mouvement en tant que porte-parole puis secrétaire national. J'étais coprésident d'un groupe et donc ma parole, elle engageait le collectif. Et je ne pouvais pas. C'était devenu intenable. Donc j'ai tenu.
Intenable pourquoi ? Parce que.
Je ne pouvais pas parler. Ma parole était.
Parce que Sandrine Rousseau est devenue puissante ? Parce que ses soutiens sont puissants aussi bien dans le parti que en marge du parti, dans les collectifs féministes ?
Mais pour moi, ce n'est pas du féminisme. Moi, je distingue. Féminisme, oui, toujours. Ma mère. Je ne veux pas. Peu importe. Féminisme, oui,
c'est
toujours.
C'est l'égalité.
C'est l'égalité. Parce que ça, c'est le féminisme, c'est la poursuite de l'égalité.
Alors, c'est quoi, alors ?
Eh bien, moi, je considère que ça a trait au macartisme.
Une chasse aux hommes, en quelque sorte. Une chasse aux sorciers.
Le macartisme, c'est dit, vous êtes communiste et vous ne pouvez pas vous en défendre. Parce que si vous dites que vous êtes... C'est un sénateur dans les années 50 aux États-Unis qui a fait son beurre politique là-dessus. Vous êtes communiste et vous ne pouvez pas vous en défendre. Et si vous vous en défendez, c'est très précisément ce que dit un communiste pour s'en défendre. Et si votre voisin dit bah « non, mais elle n'est pas communiste », en fait, il se tait parce qu'il a peur d'être accusé de sympathie communiste. Et à l'époque, c'était vraiment ça.
Donc, il n'y a pas d'affaire Bayou, mais il y a une affaire Rousseau, c'est ça que vous dites ?
Mais je crois vraiment, tout le monde peut mesurer qu'elle est allée trop loin, oui. Et on ne peut pas confondre le féminisme. Encore une fois, la France doit affronter sa honte. La justice est défaillante. Et donc, ce n'est pas pour inventer je ne sais quel dispositif. Il faut réparer cette justice. Et par contre, mettre de côté, oui, des anathèmes dont vous ne pouvez pas vous défendre.
Le privé politique, vous connaissez ce slogan des féministes radicales des années 70, c'était un essai célèbre, c'est aussi ce que Sandrine Rousseau semble faire sien, cette devise. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que le privé est politique ?
Le privé ne doit pas être utilisé à des fins politiciennes.
C'est le cas de Sandrine Rousseau ? C'est ce qu'elle fait ?
J'ai pas envie de...
Essaye de vraiment, comprendre, je suis venu... parce qu'on peut partir du principe que son combat féministe est sincère, qu'elle a été sincèrement touchée par une femme profondément déstabilisée par un homme qui, par ailleurs, est son collègue dans un parti politique et dans un collectif. Ça, vous n'y croyez pas ? C'est une question sans aucun
a priori. La chronologie est limpide. Sandrine Rousseau elle-même, puisque vous me contraignez à en parler, vous dit qu'elle a reçu mon ex-compagne quelques semaines avant l'élection législative. Puis je deviens coprésident du groupe. Ça s'est fait à l'unanimité, dont Sandrine Rousseau. Survient cette tentative de suicide, puisque vous me contraignez à en parler, que Sandrine Rousseau a dévoilée. Et donc un signalement dans lequel elle est en copie. Je l'appelle. Là encore, elle me dit ce que j'ai entendu, elle ne me dit pas qu'elle a reçu mon ex-compagne. Elle m'a dit j'ai mené ma petite enquête. On en pense ce qu'on veut. Elle me dit ne me revient que des faits non répréhensibles. Et ma ligne, c'est la loi ou. Enfin bref, vous comprenez. Donc là, il y a une forme d'hypocrisie. Évidemment. De la même manière qu'elle attend que les lumières s'éteignent pour vous dire, semble-t-il, qu'il n'y a rien de répréhensible.
C'est parce qu'on lui a posé la question. C'est parce qu'on lui a posé la question une fois que les lumières se sont éteintes et que l'interview n'avait pas pu se poursuivre.
Vous n'êtes plus patron du parti, ni président de votre groupe parlementaire, mais vous avez décidé de revenir à l'Assemblée nationale. C'était la, la rentrée des députés aujourd'hui. On vous a vu siéger au sein de votre groupe. Louis Amar et Audrey Payas ont posé la question aux autres députés, à vos collègues, pour savoir comment ils vous regardaient dans cette situation.
Julien Bayou est-il un collègue comme les autres ?
Oui, pourquoi ? Qu'est-ce que cette question curieuse ?
Bah oui, il est député comme chacun d'entre nous.
Bah oui. Julien Bayou, il n'y a pas de plainte contre lui, il n'y a pas de main courante contre lui.
C'est à lui de savoir si il a sa place ici ou pas, mais pas à moi de juger en tout cas.
Oui, c'est un collègue comme les autres. Je trouve que ce sont des révolutionnaires qui sont mangés par leur propre révolution, si j'ose dire.
Révolutionnaires mangés par leur révolution, dit Olivier Falorni.
Non, moi je ne laisserai pas dire. Ça sous-tend l'idée qu'il y a, et si je m'extrais ou j'essaye de m'extraire de mon cas et de la situation là, mais ça sous-entendrait qu'il y a des excès au féminisme, voilà, qu'il y a des dérives.
Oui.
Et moi je ne crois pas.
Un excès de pureté.
Non, il n'y a pas d'excès à la.
Quand on enquête sur vous, qu'on appelle vos ex-compagnes, ce n'est pas un excès du féminisme.
Non, c'est autre chose que
c'est
le féminisme.
C'est une instrumentalisation.
Non. Enfin, vraiment.
On essaye de comprendre.
Moi, je ne voudrais pas que. Il n'y a pas d'excès à la conquête de l'égalité. Il n'y a pas. Il fut un temps où on accusait les féministes des années 60 ou 70 d'aller trop loin. Ce n'est pas vrai. Ce qu'elles faisaient à l'époque est aujourd'hui rigoureusement nécessaire. On s'en rend compte chaque jour. Les avortements clandestins du MLF, par exemple. C'est tout à fait différent. De mettre quelqu'un sous surveillance, de lancer des anathèmes, de pointer du doigt, de lire j'ai des listes de noms, de provoquer une tétanie, aussi bien que les gens qui trouvent que ça va trop loin n'osent pas le dire. Ça, c'est autre chose. Un climat, c'est pas le féminisme. Vous voyez, pour moi, donc je tiens vraiment à. Au-delà de mon cas.
Ça prend le visage du féminisme, pardon, elles le font au nom de la cause féministe, enfin, c'est comme ça qu'elles le disent. Donc c'est un féminisme, un combat féministe qui masque un règlement de compte ou une vendetta. C'est ça que vous voulez dire ?
Oui. En tout cas, c'est tout à fait différent du féminisme et du combat pour l'égalité. Et je pense que c'est vraiment très important qu'on ne puisse pas.
Quel rôle allez-vous jouer à l'Assemblée nationale, vous qui allez siéger à quelques bancs de Sandrine Rousseau à l'Assemblée nationale? Elle était à quelques mètres de vous cet après-midi. Quel peut être aujourd'hui votre rôle à l'Assemblée, votre avenir politique?
Moi, j'ai longtemps été porte-parole de ce mouvement, ou en tant que secrétaire national, hein, des animateurs et des animatrices. Et pendant longtemps, les écologistes, on a dit, attention, le dérèglement climatique arrive, il faut protéger les générations futures. Et avec cet été, par exemple, le dérèglement climatique est là. Il y a des incendies, et sans les Canadairs autrichiens, portugais, grecs, on ne savait pas faire face. Il y avait une pénurie d'eau, elle était annoncée, le gouvernement n'a rien fait, les précédents non plus. Il y a des villages qui se sont retrouvés sans eau potable pendant qu'on arrosait les greens des golfs à l'eau potable. Il y a eu des orages en Corse qu'on n'a pas su prévoir parce qu'on a réduit de 20% les effectifs de Météo France. Et même l'hiver qui arrive, on voit les conséquences. Pendant des années, les écologistes ont dit. Pendant des années, ils ont alerté. Et maintenant, il faut faire. Voilà.
Mais ça fait 15 jours qu'on n'entend pas les écologistes sur ce sujet, Julien Bayou.
Eh bien, à ma modeste mesure, au niveau national, en tant que député, moi, je veux travailler ce plan. Moi, j'appelle ça la métamorphose. Vous dites quels sont les objectifs, l'écologie, la justice, l'espérance de vie en bonne santé, le bien-être. Et en cascade, vous déroulez toutes les politiques publiques. En cascade. On voit les pompiers. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'été prochain, vous puissiez être en mesure de coordonner les secours, de répondre dans l'urgence, d'avoir des Canadairs à disposition? Comment on fait, en fait? Ce que devrait faire le gouvernement, je trouve. Moi, je suis à la commission défense. Demain, on a l'audition du ministre Lecornu, qui lui-même se plaint que l'armée est déployée sur tous les champs des catastrophes naturelles. Parce que le climat est devenu une question de sécurité nationale.
Mais vous pouvez être encore audible sur ces questions urgentes.
Mais plus que jamais. Je pense que plus que jamais. Plus que jamais. Grâce aux anciens et aux anciennes qui ont porté ça dans le désert, je pense au secrétaire national de 1989 qui parlait avant le rapport du GIEC de 1990, grâce à ces personnes-là, Oui, aujourd'hui, on peut porter ce plan, cette métamorphose. Et d'autant que les maires, à Lyon, à Poitiers, à Strasbourg, font déjà mettre en œuvre à leurs moyens, à la mesure des compétences qui sont les leurs, enfin, les compétences qu'on leur donne, c'est-à-dire pas leur talent, mais c'est pas leur talent qui est en jeu, mais les compétences.
Leurs prérogatives.
Leurs prérogatives, merci, leurs moyens financiers. Comment on passe ça à l'échelle? Voilà. Et je crois qu'il y a une attente là-dessus, et ça, c'est véritablement passionnant.
Ce qu'on comprend, Julia Bayou, c'est que passer la sidération de ces accusations que vous démentez en bloc, dont vous dites que vous ne pouvez pas vous défendre, puisqu'elles ne reposent sur rien qui puisse vous être légalement reproché, passer la sidération, vous reprenez le combat politique que vous avez failli abandonner?
Oui. Bah, moi, je suis élu député, et je le dois à des personnes qui m'ont fait confiance. Je vais continuer, mais je ne reviens à absolument rien. Et l'écologie est plus que jamais nécessaire. Enfin, qu'on mesure aujourd'hui que les écologistes alertaient sur le fait que être trop dépendant des hydrocarbures nous amenait à devoir céder devant des régimes autoritaires. On l'a dit sous tous les tons. On le mesure aujourd'hui. Notre dépendance au gaz fait qu'on finance l'effort de guerre de Poutine contre les Ukrainiens. Les énergies renouvelables sont les énergies de paix. C'est bon pour le porte-monnaie, bon pour l'emploi. Voilà, comment on porte ce programme, ce projet, ce plan pour être en mesure de le mettre en œuvre, puisque ce gouvernement ne le fait pas. Et c'est un projet passionnant, passionnant.
Que vous n'abandonnerez pas. Merci beaucoup, Julien Merci. Bayou, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de Savou. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Émilie, quand le combat contre le cancer devient un combat médiatique.
Oui, c'est une autre des révolutions à laquelle nous assistons ces dernières années, quand des personnages publics comme le chanteur Florent Pagny ou le journaliste Jean-Pierre Pernaut ont osé dire publiquement qu'ils étaient malades.
Et oui, il y a eu une fuite annonçant dans les médias que je souffrais d'un cancer du poumon. C'est vrai.
Je viens de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer. Donc je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X.
Personne ne faisait de telles annonces encore dans les années 50, mais depuis, les choses ont changé et surtout... souffrir d'un cancer, ça n'est plus synonyme de mort imminente. Il faut du courage, en tout cas, pour parler et montrer les stigmates de cette maladie.
Bonsoir, Michel Simès.
Bonsoir.
Rien n'est impossible. Mon histoire pourrait être la vôtre. Un livre dans lequel vous parlez de vous, mais avec une idée fixe, être utile. Et c'est la raison pour laquelle vous racontez, comme l'ont fait d'autres personnalités, Émilie nous le rappelait, le combat contre le cancer du rein que vous avez mené en silence. C'était il y a 14 ans. Un secret longtemps gardé, d'abord parce que vous vouliez rester un médecin avant tout. Celui qui est à l'écoute plutôt que celui dont on prend des nouvelles. Il n'en reste pas moins que l'annonce d'un cancer reste un choc, une sidération que vivent tous les patients. Et vous, vous le médecin, vous l'invincible, vous pleuriez?
Oui, parce que j'ai vécu ça comme tous mes patients à qui j'annonçais des cancers et puis tous les gens qui sont passés par là. Il y a un moment, au moment de l'annonce, où vous êtes assommé par l'annonce. Alors... c'est sûr qu'en étant médecin, en plus, c'est encore un peu plus compliqué, mais c'est des moments de sidération et puis on craque et puis après, on se réveille et puis on se bat. Mais si vous voulez, c'est un moment... L'après-cancer m'a permis de mieux comprendre ce que ressentaient les patients à qui, moi, dans ma spécialité d'ORL, j'annonçais un cancer. La sidération, tous les médecins savent ce que c'est. On a tous été formés plus ou moins à l'annonce et on sait que le patient, une fois que vous lui annoncez le cancer... il ne vous écoute plus. Le mot a été prononcé, c'est terminé. J'ai vécu ça. Et donc, effectivement, je n'ai pas voulu en parler avant. Bon, d'une part, parce que je n'avais pas prévenu mes proches, notamment mes parents. J'ai juste dit à mon père avant que le livre sorte. Et puis, parce que c'est très difficile quand vous êtes médecin, il faut quand même garder une certaine distance vis-à-vis du patient. Et si j'avais un patient à qui j'annonce un cancer qui me dit « docteur, c'est terrible, je n'ai pas le moral, mais vous savez ce que c'est ». C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Surtout que j'avais déjà une piqûre de rappel à chaque fois que j'annonçais un cancer, donc c'est pas peine d'en rajouter.
Et il faut parler parce que ces paroles-là, elles valent de l'or. À chaque fois qu'elles sont prononcées, elles encouragent au dépistage. Et c'est la raison pour laquelle...
Et c'est la raison, effectivement, pour laquelle j'en parle. On est dans une situation folle. Moi, je raconte...
Comment vous vous êtes rendu compte de ce cancer?
J'ai eu une chance folle. J'ai eu un accident de ski, on m'a fait un examen, un scanner, on a découvert cette tumeur qui faisait 3,5 cm, stade auquel on a peu de risque d'avoir des métastases. À 4 cm, on a statistiquement un peu plus de risque d'en avoir. À 5 mm près, je n'avais aucun symptôme. J'ai eu une chance dingue. On m'a enlevé la tumeur, on m'a enlevé une partie du rein. Et aujourd'hui, je suis guéri. 14 ans après, il n'y a plus de soucis. Il faut... Alors, on va me dire, oui, mais tout le monde ne peut pas passer un scanner, tout le monde n'a pas votre chance, mais il faut la provoquer, la chance. Aujourd'hui, on est en plein octobre rose. Il y a à peu près 43% des femmes qui peuvent bénéficier d'une mammographie qui le font.
Il y a 43%.
Il y a un tiers des personnes qui peuvent bénéficier d'un dépistage du cancer du côlon par la recherche de sang dans les selles. On reçoit des annonces, des kits. Un tiers seulement le font. Alors, je veux bien, j'ai eu beaucoup de chance, mais provoquez-la, la chance. J'ai tellement de gens qui me disent « je ne vais pas faire le dépistage parce que j'ai peur qu'on me trouve un cancer ». Mais c'est quoi ce raisonnement? C'est quoi? On peut avoir peur, on peut être hypochondriaque, on peut avoir peur de l'annonce d'aller voir le médecin. Mais si vous avez un cancer, on va vous le diagnostiquer à un stade où, comme moi, on va pouvoir vous guérir. Vous allez attendre quoi? 1 an, 2 ans que vous ayez des symptômes? Et là, ce sera peut-être trop tard. Donc, l'argument ne tient pas. Allez-y, faites-vous dépister. La médecine aujourd'hui vous permet de dépister des petites tumeurs et de faire comme moi. Sinon, je ne serai jamais là ce soir pour vous en parler.
Parler pour être utile, c'est aussi la raison pour laquelle vous évoquez un autre événement que vous avez eu pendant des années, une agression sexuelle subie lorsque vous aviez 11 ans. Un prof particulier de maths qui se masturbe devant vous. À la maison, vous n'en parlez pas. Qui me croirait? Écrivez-vous. Mais ce que vous savez, Michel, c'est que se taire est dangereux et que souvent vous avez perçu sur le visage de vos patients le poids d'un secret enfoui et les dégâts qu'il provoque.
Oui, et puis c'est pourquoi je parle de ça. C'est pas très franchement, je crois pas que cette histoire, mais enfin, faudrait que je fasse une analyse, mais elle m'a pas traumatisé à un point tel que j'ai eu une vie un peu difficile après. En revanche, avoir un type à côté qui, alors l'histoire est quand même dingue, c'est qu'il est à côté de moi. Ma mère, on vit dans un 60 mètres carrés, ma mère est à côté, la porte est fermée pour pas que mon frère vienne nous embêter. Et à un moment, pendant les cours de maths, ce qui n'avait pas grand-chose à voir avec la géométrie, il me dit, est-ce que tu t'es déjà masturbé? À 11 ans, c'est pas une préoccupation principale. Et après, il me dit, bah, je vais te montrer comment on fait. Et donc, il le fait. Et à un moment, il me dit, est-ce que tu veux me le faire? Et là, allez savoir comment, à 11 ans, j'arrive à lui dire non. Parce qu'il y a la force d'un adulte dit de 17 ans, mais il y a ma mère à côté, j'ai peur, etc. Et j'ai fini par dire non, et je suis sorti, et le soir même, j'ai dit à mes parents, c'est bon, j'ai plus besoin de cours de maths. Bon, et après, j'étais pas meilleur en maths, mais bon. Mais ça m'a pas... Je crois pas que ça m'ait traumatisé. En revanche, l'image, elle est là. J'avais 11 ans, donc il y a quand même un moment... Je vois encore la scène, je vois l'espace dans lequel c'est et je me vois derrière ce petit garçon. C'est très bizarre, hein. Il y a beaucoup de gens qui vous disent ça, qu'après des agressions sexuelles, on se détache complètement. Et je vois la scène avec recul aujourd'hui.
D'où l'importance de l'éducation sexuelle qui est essentielle et d'en parler. Parler et se connaître, l'importance du diagnostic quel qu'il soit, voilà qui nous amène au titre de votre livre. Rien n'est impossible. Vous, le médecin, personnalité préférée des Français, qui a d'abord été un élève en difficulté, qui a redoublé sa 6e, qui a raté son bac. Le diagnostic n'est venu que beaucoup plus tard. Vous êtes TDAH, on l'entend beaucoup, ce cycle trouble de l'attention avec hyperactivité. Vous êtes aussi HPI, haut potentiel, gna gna gna. Vous compreniez mieux aujourd'hui...
Gna gna gna, ça c'est pas...
Vous comprenez mieux aujourd'hui. Non. Et la compréhension de soi, c'est une énorme victoire.
Oui, c'est une énorme victoire. Mais c'est surtout que ça me permet de répondre à des questions qu'on se pose tous sur ce qu'on a fait, etc. Le TDAH, le trouble de l'attention... avec ou sans hyperactivité, je l'ai avec hyperactivité. C'est un copain, Olivier Revol, qui est neuropsy, qui est pédopsy, pardon, à Lyon, et qui me dit un jour, tiens, je fais un livre sur les TDAH, est-ce que tu veux pas témoigner? Et je lui dis, mais de quoi tu me parles? Et là, il a éclaté de rire en me disant, tu te fous de moi, quoi, c'est pas possible, bien sûr que t'es TDAH. Alors, l'apprendre il y a 4-5 ans, vous voyez, ça n'a pas perturbé ma vie. Ça m'a juste permis de répondre à des questions que je me posais sur pourquoi j'ai redoublé ma 6e, pourquoi j'ai raté mon bac, et... pourquoi j'ai réussi ma première année de médecine du premier coup. C'est ce qu'ils appellent, alors je ne sais pas si c'est les TDAH ou les HP, mais l'effet Everest. Tout ce qui est trop facile, ça m'emmerdait et je m'ennuie très vite. Et donc, ça ne m'intéressait pas et donc je ratais. Et dès que j'ai eu mon effet Everest, qui était ma première année de médecine, eh ben, j'ai réussi du premier coup, ce qui était strictement et statistiquement impossible.
Avec un peu de chance. Il y a eu un petit coup du destin, mais enfin, on ne va pas rentrer dans les détails.
Oui, mais enfin, je le méritais, le coup de chance.
Alors, ce TDAH, il se traduit par un besoin de bougeotte, et ce besoin, vous l'avez transmis tout simplement à un président de la République, à François Hollande, ouais, que vous avez convaincu de faire 6000 pas par jour, mais d'une drôle de façon, vous l'avez convaincu.
En fait, c'était au moment de l'Euro 2016. Alors malheureusement, il y a eu les attentats, donc tout s'est arrêté. Mais on m'avait demandé de faire partie d'une équipe de 11 personnes qui, chacun dans son domaine d'expertise, allait faire bouger un petit peu la France. Et moi, je devais, comme je vais le faire pour les Jeux Olympiques, faire bouger les Français. Et j'ai demandé à François Hollande en disant, voilà, vous êtes le premier Français, montrez l'exemple, aidez-moi à faire passer le message. Je suis allé à l'Élysée avec Nathalie Yanetta à l'époque. Et il me dit, bon, comment je fais pour faire mes 6000 pas? Parce que je lui ai dit, faites déjà 6000 pas. J'ai été délicat, je vais parler que du fait que...
Pas de la petite surcharge.
Non, que le métier de président de la République était compliqué pour dormir, pour manger, etc. Et il me dit, comment je fais? Alors je lui dis, bah, vous regardez votre smartphone et vous avez une application pour vous le dire. Il me sort un smartphone, je pense que chez Apple, il l'avait plus. c'était même plus, il n'y avait pas de numéro, c'est pas un 0 à 1, c'est un truc. Et là, j'éclate de rire devant lui, on est à l'Élysée, hein, dans son bureau, et je lui dis, c'est pas votre téléphone, ça? Il me dit, bah si, qu'est-ce qu'il a mon téléphone? Et je lui dis, mais il n'y a pas d'application. Enfin, on ne peut pas mettre d'application, ça n'existait pas à l'époque. Et donc, c'était un bac élite, pratiquement. Et donc, il m'a dit, OK, il n'était pas vexé parce qu'il est plutôt sympa. Et il a acheté un téléphone dès le lendemain. Et peu de temps après, on m'a dit que ses conseillers avaient demandé quel était le con qui avait suggéré à François Hollande de faire ses 6000 pas parce qu'il travaillait autour du parc de l'Élysée en marchant pour faire ses 6000 pas. Et voilà, je ne pouvais plus mettre les pieds à l'Élysée.
Et un jour, on vous a demandé aussi de raconter une blague devant lui.
Oui, alors je ne vous la raconterai pas, Pierre, parce que dans le bouquin, effectivement, c'est un grand moment. Alors,
une blague de Toto.
J'explique, non, c'est pas Toto, mais j'explique dans le livre, effectivement, un soir, j'étais invité au château de Versailles à un dîner privé avec François Hollande et Julie Gayet. Et comme il était arrivé en retard, j'étais un peu éméché par l'apéro, même j'étais sans filtre. Et un jour, Baraton qui nous invitait, à un moment donné du dîner, il me fait « taquet drôle, tu vas nous en raconter une petite ». Et là... sans fil, je me lève, je vais vous raconter l'amour tempête. Alors, ceux qui connaissent l'amour tempête,
bah oui,
je ne peux pas la raconter ce soir, c'est impossible, mais vous n'avez qu'à taper sur Internet, et je n'ai jamais autant transpiré de ma vie.
Avec votre femme qui vous faisait les yeux revolver.
Je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? J'étais en train de raconter la blague en me disant, tu as le président de la République en fonction à l'époque, et Julie Gayet devant. Et finalement, l'éclat de rire général m'a soulagé, et quelques semaines plus tard, je lui ai dit, vous savez, mes copains me traitent de fou tellement, genre, quand je leur raconte ça. Et il me dit, vous leur avez dit que je n'avais pas compris ça. Il y a beaucoup d'humour.
Avant d'arriver à l'Élysée, vous transpiriez devant, pas François Hollande, mais devant William Emergy.
Il y aurait donc plus d'infarctus le lundi.
Cette étude qui prouve qu'il y a plus d'infarctus le lundi peut paraître un petit peu étonnante.
Non, cela dit, le lundi n'est pas le jour le plus agréable à tout point de vue.
Voilà, c'est pas le plus agréable. Alors,
le stress est dense, je pense.
Voilà, c'est l'une des hypothèses.
Rentrer dans n'importe quel bistrot un lundi en France, bonjour, comment ça va? Comme un lundi. Ça fait longtemps qu'on dit ça ici, j'ai pas besoin du concret. Et oui, ça s'explique, ça.
Et donc, cette hormone...
Il est consterné, parce que je vais lui dire...
Oui, là, je suis en train de penser ce que je veux dire après. Alors,
excusez-moi.
Vous avez l'air hyper à l'aise, en tout cas, c'est pas facile d'en placer une.
Alors, je suis tétanisé, c'est vrai que l'énergie ne m'aidait pas beaucoup ce jour-là, mais...
Un peu intrusif, là.
Ouais. Ouais, mais c'est vrai que ça a été des moments... D'abord, ça m'a appris la télé, ça m'a appris beaucoup de choses. Vous faites un direct à cette heure-ci pour commencer, et en si peu de temps. Mais j'étais tétanisé. Moi, je suis un grand traqueur, hein, et là, bon, ça commence à aller mieux en vieillissant, mais je me suis dit, la première, je me suis dit, je vais tomber dans les pommes, en direct.
Après, vous êtes devenu célèbre avec le duo vous formez pour le magazine de la santé avec Marina Carrère-Dancos, qui devient mythique, mais vous faites un mea culpa assez intéressant dans le livre, notamment sur ce duo. Vous vous demandez si vous n'avez pas contribué au machisme auquel était confrontée notamment Marina.
Alors, j'y ai contribué probablement involontairement, mais avec Marina, on en a souvent parlé. Pour les téléspectateurs, pendant longtemps, pas tous, mais pendant longtemps, j'étais le médecin, c'était l'infirmière. C'était un truc de fou parce qu'on lui disait... Alors, mesdames les infirmières, n'envoyez pas... J'adore les infirmières, il n'y a pas de dévalorisation du métier. Oui. Mais pour les gens, voilà, pratiquement, on ne pouvait pas être médecin en étant femme. Et Marina, on lui disait, mais
Vous connaissez bien l'anatomie hein, pour une infirmière. Enfin, bon, il y a des moments, elle était un peu, elle les avait là.
Parce qu'elle est médecin.
Ah, parce que, oui, parce qu'elle est médecin. Et voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est ce, alors, je pense que ça change aujourd'hui, surtout qu'elle est toute seule à présenter l'émission, enfin, avec Jimmy Mohamed. Mais voilà, à un moment, le mec était médecin et la femme était infirmière. C'était comme ça. Alors, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. De cette parité, de cette image de la femme, mais à l'époque c'est pas à cause de moi, hein, c'est pas parce que je faisais des blagues un peu olé olé qu'on a oui. pensé que j'étais médecin et pas là.
Non, mais même si le producteur oui. vous le reprochait en disant avec tes conneries Michel tu décrédibilises l'émission,
oui. c'est
vous
sortais,
demandez de mettre le
ouais, je, Christian Jorin, mon producteur, s'il m'écoute, je sortais du plateau, il me disait, je me faisais engueuler, arrête de déconner, tu décrédibilises la santé à la télévision, tu ne peux pas continuer comme ça. Donc je m'écrasais pendant une semaine, puis je recommençais jusqu'au jour où on a compris que c'était la bonne carte de visite de l'émission et que c'est ça qui faisait venir.
Et puis cet esprit carabin, l'humour des salles de garde, vous y revenez aussi dans ce livre dans lequel vous évoquez tous les sujets importants, toutes les questions essentielles autour de la santé, l'euthanasie,
la fin de vie,
soigner la vie, c'est pas soigner la mort. Vous parlez aussi du fait que vous êtes juif et de l'antisémitisme dont vous avez été victime. Vous parlez aussi de la médecine de demain, qu'évidemment le médecin de 2050 ne ressemblera en rien au médecin des années 2000. Enfin, il y a mille et un sujets qui sont abordés et c'est pas un exercice mégalo. Vous le précisez dès le...
Ouais, merci. Parce que...
D'ailleurs, il a mis que la moitié de sa figure sur le regard.
Mais il y a l'autre moitié derrière.
Ah merde, ah ouais.
Donc, c'est pas vraiment...
Non, merci, parce que c'était là-dessus. Vraiment... C'était, ma grande peur, c'est qu'on se dise « Oh là là, l'autre, il se prend pour un prix Nobel de médecine. » Pas du tout. Tout ce que je dis, c'est pour essayer de rendre service à ceux qui me font confiance.
C'est à paraître demain, rien n'est impossible, mon histoire pourrait être la vôtre, et c'est aux éditions Stock. Vous restez avec nous, Michel.
Avec plaisir.
Pour le 5 sur 5 de Mathieu Méliard, pardon à Mohamed, on a pris tellement de retard qu'on ne peut pas faire sa story ce soir. Et on le retrouve à 20h, Mohamed. Tout de suite, Mathieu Méliard.
Quel appel. Bonsoir Mohamed, bonsoir à toutes et à tous.
Mathieu, on reste dans le domaine de la santé avec le Covid qui revient dans l'actualité.
Ah oui, puis il faut bien dire qu'on n'a pas très envie de le voir revenir. On a à peine envie d'en reparler. Mais malgré tout, il faut bien l'admettre, nous sommes en plein dans une huitième vague. Et il y a une nouvelle personnalité tiens, qu'il faut connaître, Brigitte Autran. C'est la présidente du COVARS, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Le COVARS, c'est un peu le nouveau conseil scientifique. Et quand Brigitte Autran parle, il faut l'écouter comme on écoutait Jean-François Delfraissy au plus fort de la pandémie. Surtout que ce qu'elle dit ce matin n'est pas tout à fait anodin.
On est vraiment là dans une vague ascendante et il reste recommandé de porter les masques de façon très fréquente. Aujourd'hui, personne n'a réintroduit l'obligation du masque, mais tout le monde l'étudie.
Vous avez bien entendu le retour du port du masque obligatoire à l'étude. On y réfléchit, vague ascendante, port du masque. L'obligation est à l'étude aussi, je le précise, chez nos voisins, outre-Atlantique également. Alors Camille Schmitt et Anaïs Recouli sont tout simplement allés sonder des Parisiens et leur remettre cette actualité Covid sous le nez.
Je pense que ce serait bien de laisser les gens décider s'ils veulent remettre le masque ou pas.
Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y en ait besoin.
On a tellement souffert de ça pendant 2 ans.
Je pense que peut-être à l'intérieur et dans les transports publics, oui, ça pourrait être assez utile.
Les médias font part d'une remontée des cas de coronavirus et je crois que c'est peut-être préférable ainsi, oui.
En intérieur, je peux le comprendre. En extérieur, je ne vois pas l'utilité, vraiment.
Je n'avais rien contre le masque au départ, mais dès l'instant où les gens ont été normalement vaccinés, il n'y a plus aucune raison, effectivement, de garder le masque.
Au gouvernement, ils sont entourés des meilleurs spécialistes. C'est certainement pas nous qui ne savons absolument rien sur le sujet de pouvoir répondre à cette question.
Michel Simès, il faut le rendre obligatoire ou se contenter de le recommander ?
Je ne sais pas s'il faut le rendre obligatoire, mais je trouve que porter le masque dans le métro ou quand il y a beaucoup de monde dans une foule, ce n'est pas complètement stupide en ce moment. Obligation ou pas, ça va dépendre un peu du nombre de cas, mais voilà, si vous côtoyez beaucoup de monde dans un petit espace, vu que le virus circule pas mal en ce moment, ce n'est pas complètement stupide de le porter.
Pour le Covid et pour le reste, hein.
Pour, ah bah,
la grippe,
pour le Covid,
pour les gastro,
pour le rhume.
Oui, il y a beaucoup de virus. Hein.
Oui, il y a beaucoup de virus, j'en suis le témoin.
Et une immunité affaiblie aussi par les 2 années
Alors, soit affaibli par les deux années, soit augmenté grâce à la vaccination et au fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu le Covid. Donc là, l'immunité, elle est quand même avertie.
Sur le Covid en lui-même, mais du coup, on chope beaucoup plus facilement.
Alors, on peut choper beaucoup plus parce qu'il a été un peu fatigué par tout ce qu'on lui a demandé de faire pendant les vacances. C'est peut-être pour ça que j'ai un rhume, là.
Ah oui, moi aussi, je suis malade.
Il faudrait que je me fasse tester, peut-être.
Moi, j'ai plus le voix.
Négatif.
Les Japonais ont eu peur la nuit dernière.
Très. La Corée du Nord a lancé un missile balistique de moyenne portée. Alors, comme vous allez le voir sur cette animation, l'objet a parcouru 4500 km en 22 minutes avant d'aller s'abîmer plus à l'est dans l'océan Pacifique. Il est monté, il a volé à 970 km de hauteur dans l'espace, en fait. Pour vous rendre bien compte, il était deux fois plus haut que la Station Spatiale Internationale. Un missile, donc, qui a survolé le Japon, une première depuis 2017, une première qui a valu aux autorités nippones de déclencher leur système d'alerte aux missiles.
Missile Hasha. 北朝鮮からミサイルが発射されたものとみられます。建物の中または地下に避難してください。
Et vous voyez ici, dans les rues de Tokyo, l'alerte relayée sur les écrans de pub. Il est 7h30 du matin, hein, en fait, et l'info fait extrêmement rapidement le tour de l'archipel. Dans certaines régions, les habitants sont évacués de leur domicile pour rejoindre des abris. Écoutez l'ambiance de Tokyo dès l'aube. Depuis le dispositif, pardon, existe, ce dispositif d'alerte depuis 2007. À l'origine, il sert en cas de catastrophe naturelle. Forcément, l'annonce d'un missile nord-coréen, ça a surpris les Japonais.
びっくりしました。っていうか、朝早くだったんで。
Depuis le début de l'année, il faut le savoir, la Corée du Nord a lancé 23 missiles déjà. Ils retombent généralement en mer avant d'atteindre le Japon. Là, c'est donc une première depuis 2017, tentative condamnée évidemment par la communauté internationale. Corée du Sud et États-Unis, les premiers qui craignent un essai nucléaire.
Mais pas la Russie qui protège.
Pas la Russie qu'on n'a pas entendu aujourd'hui sur cette.
Ah ben non, mais ils protègent le dingue,
bien sûr. Ouais.
Le dingue, c'est Kim Jong-un. Ouais.
Kim Jong-un. Mort au dingue.
Paris s'ajoute à la liste des villes françaises qui ne diffuseront pas les matchs de la Coupe du Monde. Mohamed nous en parlait hier dans sa story.
Oui, des villes qui refusent d'installer des écrans géants pour des raisons humanitaires, environnementales. C'est le débat qui anime cette rentrée et qui va durer au moins jusqu'à la finale. Il faut entendre que ces villes ne veulent pas promouvoir la Coupe du Monde qatari. Elles l'annoncent les unes après les autres. Strasbourg, Lille, puis hier Marseille, Bordeaux, Nancy, Reims. Et donc Paris, la capitale, l'a annoncé hier soir. Le débat qui passe de l'écologie à la question des droits de l'homme, mais qui rappelle aussi que la décision remonte à plus d'une décennie. Dans la foulée de l'annonce parisienne, beaucoup ont rappelé ce qu'Anne Hidalgo disait des dirigeants qataris du PSG.
Je les remercie d'avoir mis le club de Paris au niveau auquel il est, et puis de soutenir aussi des choses qui m'importaient beaucoup. Mmh. Je pense au foot féminin. Ils ont vraiment mis et les moyens et l'accompagnement pour une équipe qui est magnifique, le PSG féminin. Et puis dans toute la lutte aussi contre l'homophobie, le racisme dans les stades, nous travaillons main dans la main et avec les gamins de Paris. Mmh. Donc écoutez, voilà, je suis heureuse de cette collaboration avec eux.
Alors, encore une fois, Anne Hidalgo parlait là des dirigeants du Paris Saint-Germain, mais on sait la grande proximité qui lie le président du club à l'émir du Qatar, et ce ne sont pas ses seules déclarations sur le Qatar. Pas de match sur écran géant en ville, il faudra les regarder à la maison ou dans un bar. Et ce matin, sur France Info, l'éditorialiste Renaud Dely a souligné l'ironie de la chose.
Si les gens ne peuvent pas voir des matchs sur écran géant, ça peut les inciter peut-être à s'abonner à beIN Sport, qui est la seule chaîne de télévision qui diffusera l'intégralité des matchs, et donc à l'arrivée, c'est le Qatar qui gagne.
Ouais. Pas faux. beIN Sport, propriété du Qatar, qui est la seule chaîne à diffuser tous les matchs. Retour à la politique, à la NUPES, on appelle au boycott, mais pas seulement. Ce matin, Olivier Faure réclame jusqu'à un boycott diplomatique, que les officiels, Emmanuel Macron, la ministre des Sports, n'aillent pas au Qatar. Alors pour ou contre, Louis Amar et Audrey Payas ont posé la question à des députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Depuis quelques jours, c'est le bal des faux culs, vous savez. On semble découvrir que la Coupe du Monde va se faire au Qatar.
Vous ne pouvez pas dire par exemple à des équipes sportives, en l'occurrence des équipes de foot, on va boycotter la Coupe du Monde dans laquelle vous allez représenter notre pays. C'est-à-dire que vous avez le droit, vous, d'aller jouer, de représenter la France sur le terrain. En revanche, nous, politiquement et diplomatiquement, on ne va pas aller dans les tribunes. Il y a deux poids, deux mesures.
À partir du moment où la décision a été prise, le boycott, pour moi, n'a pas de sens.
C'est vrai qu'on aurait dû éviter ça. Il est important de savoir dans quelles conditions ça a été attribué. Je pense que toute la lumière doit être faite. Maintenant, c'est là-bas. Chacun juge dans son âme et conscience, mais de boycott officiel, ça paraîtrait vraiment disproportionné.
Michel Simès, vous avez déjà parlé de ridicule pour ce qui est de la climatisation des stades. Alors, on n'est pas sûr qu'ils seront toujours climatisés ou non. On a aussi appris que l'Arabie Saoudite va organiser des Jeux d'hiver asiatiques. Je n'avais pas pensé forcément au ski en Arabie Saoudite.
Ils ont été désignés ce matin, oui.
Vous ne boycotterez pas cette Coupe du Monde.
Au boycott. Je pense qu'effectivement, c'est au moment de l'attribution qu'il fallait se réveiller et puis dire qu'est-ce qui se passe, comment on peut attribuer ça à un pays qui ne respecte rien, pas les droits de l'homme, etc. Moi, je pense que... Moi, je regarderai les matchs parce que je suis un fan de foot, mais je pense qu'au contraire, il faut y aller. Et c'est en y allant, en mettant des équipes qui vont pouvoir tourner, qu'on va pouvoir voir ce qui se passe dans ce pays, qu'on va pouvoir dénoncer des choses. Bon, le fait de ne pas mettre de fan zone ou de panneaux, de grands écrans, si on veut, mais franchement, je trouve que c'est un peu tard. Quoi.
Non, mais c'est vrai qu'il fallait se réveiller il y a 12 ans, mais quand on voit qu'aujourd'hui, en plein débat sur le Qatar, c'est l'Arabie Saoudite qui a été désignée pour les Jeux asiatiques d'hiver.
Et si on veut faire pression sur le Qatar et sur les Qataris, les écrans en France et dans les grandes villes, ils s'en foutent complètement.
Mais ils s'en foutent complètement. Et encore une fois, allons-y au contraire. Que toutes les équipes de télé y aillent et puis qu'elles filment les à côté de la Coupe du Monde, puisqu'ils seront sur place et ils ne vont pas pouvoir surveiller tout le monde, je pense.
Vous avez parlé du prix Nobel de médecine, c'est celui du prix Nobel physique qui a été désigné.
Un Français parmi trois, il y a un Autrichien, un Américain, pour leurs travaux sur la révolution quantique en récompense, je cite le comité Nobel, en récompense d'expérience avec des photons intriqués établissant la violation des inégalités de Bell, bien sûr, ouvrant la voie à la science de l'information quantique. Moi non plus, je ne l'ai pas. On a trouvé une vidéo où Alain Aspect s'explique.
L'intrication, c'est le fait que si j'ai deux objets intriqués ici, je ne peux pas considérer cet ensemble de deux objets intriqués comme l'addition des propriétés du premier et des propriétés du deuxième. Il y a quelque chose de global, bien qu'ils soient séparés. Mais alors, pourquoi c'est très important l'intrication pour l'information quantique ? C'est parce qu'il y a davantage d'informations dans l'objet intriqué que la somme de l'information que vous avez ici et là.
C'est très clair, non ?
Bah oui.
Bah voilà,
c'est
notre Everest.
C'est bien d'avoir passé ça.
Voilà, on rappelle son nom, Alain Aspect, prix Nobel de physique désigné aujourd'hui par les Nobel. Merci beaucoup Michel Simès.
Merci à vous.
Rien n'est impossible. Mon histoire pourrait être la vôtre. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous où vous êtes chez vous. Dans un instant, Cédric Jiménez, Lina Coudry, Anaïs de Moustier, Claude Lelouch, L'œil de Pierre, Le Vu, les actualités de Bertrand et Mohamed Bouafsi, auquel je vais encore présenter mes excuses. A tout de suite, on vous attend.